Et donc bonjour à tous, et ben donc en effet je vais vous présenter une étude qui s'est menée à l'Université catholique de Louvain en collaboration avec l'ASBL Nitrawal et qui visait donc à prédire le reliquat azoté au printemps dans les parcelles agricoles à partir entre autres de l'azote potentiellement lessivable. Donc voilà pour le plan de cette présentation, ben d'abord je vais vous préciser le cadre et les objectifs de l'étude. Ensuite on verra suivant la même structure, la méthodologie et les résultats qui en ressortent, avant d'analyser quelques conclusions et les perspectives qui ressortent de notre étude. Donc voilà, pour le cadre, donc on se situe dans la gestion efficace et durable de l'azote en agriculture. C'est pas nouveau, c'est un enjeu environnemental et économique. Et autour de cette question, de cet enjeu, gravitent différentes sphères. Au niveau de la région wallonne, la directive nitrate européenne a été implémentée par le programme de gestion durable de l'azote en agriculture, donc le PGDA. Et donc voilà, en parallèle, pour l'implémentation de cette directive, le monde scientifique s'attelle à la création de modèles, mais qui sont souvent des modèles mécanistiques, donc qui demandent une paramétrisation et une compréhension très précise de l'environnement, et qui sont donc utilisables dans des conditions assez restreintes. Et nous avons ensuite les conseillers agri-environnementaux qui ont besoin d'outils, notamment pour les conseils de fertilisation, qui sont relativement souples et applicables dans une diversité de situations rencontrées. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que s'insère notre étude. Avant de poursuivre, donc je vais vous préciser ce qu'on entend par l'APL et le PAP, donc l'azote potentiellement lessivable et le profil azoté au printemps. Donc ce sont donc des mesures de l'azote nitrique en trois horizons du profil de sol, donc exprimées en kilogrammes d'azote par hectare. Et donc ce sont des mesures qui s'effectuent à l'échelle de la parcelle agricole, donc concrètement on va à la sonde réaliser des prélèvements d'une quinzaine d'échantillons suivant les horizons 0,30, 30, 60 et 60-90 cm. Donc les 15 prélèvements sont mélangés et par horizon on va extraire l'azote nitrique des échantillons de terre. Leur différence, c'est que l'APL, lui, est effectué en automne, donc en fin de cycle culturel, et donc un indicateur de bonne gestion de l'azote. S'il est faible, on va avoir moins de risques de lessivage de nitrate durant l'interculture. Et le profil azoté au printemps, lui, est effectué donc au printemps et donc représente le stock d'azote minéral qui sera utilisable par la culture de printemps et donc est une base des conseils de fertilisation. Donc c'est une entrée des outils de conseils de fertilisation par bilan azoté. Et donc on en vient à l'objectif de l'étude qui est de prédire ce profil au printemps sur base de l'APL, car l'APL est une mesure qui est évalué de manière plus systématique dans le cadre du contrôle des agriculteurs. Donc sur base de l'APL, mais aussi d'autres variables agri-environnementales susceptibles d'influencer ce stock d'azote minéral durant l'interculture, donc les apports azotés, les précipitations, la présence ou l'absence de cultures intermédiaires pièges à nitrate, donc les cipans durant l'interculture, du type de couvert précédent. Et donc toutes ces variables vont influencer la minéralisation et l'immobilisation de la matière organique du sol, et le volume de nitrate qui, dû à sa charge négative, va être sensible à la lessivation pour la prédiction du PAP qui, lui, permettra le conseil de fertilisation de la culture N+1 qu'on représente ici sur le petit schéma. Et donc vous avez ci-dessous les analyses qu'on a par horizon, les teneurs en azote nitrique suivant trois horizons et le total. Donc voilà pour le cadre et les objectifs. Donc la méthodologie, donc il fallait tout d'abord constituer une base de données. Nous allons ensuite, sur base de la base de données, sélectionner les facteurs prépondérants dans notre prédiction pour arriver à des modélisations les plus précises possibles. Et alors on finira par une analyse de sensibilité afin d'évaluer un peu l'importance des différents facteurs. Donc pour la base de données, il s'agit tout d'abord de récolter ces données. Donc on va essayer de retrouver un maximum de couples APL profil de printemps par parcelle agricole, et pour ceci on a relevé les analyses de sol effectuées par l'UCEL et l'autre partenaire scientifique de Nitrawal qui est l'université de Jean Blou dans un réseau de fermes de référence, et les analyses de terre effectuées par les centres d'action Nitrawal qui conseillent les agriculteurs pour la gestion de l'azote. Pour les pratiques culturelles, donc nous associons à chaque couple APL profil de printemps le type de couvert précédent et le couvert suivant, la présence ou l'absence d'une culture intermédiaire piège à nitrate, et alors les apports azotés. Pour les apports azotés, donc on a finalement différentes variables. On fait la distinction entre les apports azotés organiques et minéraux. Et alors, on va aussi distinguer les apports azotés efficaces par multiplication des apports azotés organiques avec un coefficient d'efficacité qui témoigne du type d'engrais, de la période d'application et du type de culture, et donc qui rend compte de leur capacité effective à libérer de l'azote disponible pour la culture. Et alors, en semant les apports azotés efficaces et les apports azotés minéraux, on obtient la variable des apports azotés totaux. Donc voilà, là on aura quatre variables distinctes à envisager. Pour les conditions météorologiques, alors on va bénéficier des mesures effectuées par le réseau PAM-ESEB et qui va nous fournir des moyennes journalières, des pluviométries, de l'évapotranspiration de référence et des températures à la surface du sol, donc de manière la plus proche possible de toutes les parcelles d'études. Mais les stations météo sont parfois distantes d'une dizaine de kilomètres, tout de même. Et alors, pour les informations pédologiques et hydrodynamiques, tout d'abord, pour une première étude, on s'est concentré sur la région limoneuse et sablo-limoneuse au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Donc, on peut voir qu'on a majoritairement ici des sols limoneux à drainage naturel favorable. Donc, c'est vraiment toute cette région-ci que se situent nos parcelles. Et alors, on va essayer d'obtenir les courbes de teneur en eau et de conductivité de chaque parcelle. Et pour cela, on va utiliser différentes bases de données. Donc, tout d'abord, on utilise le portail RequaCarto, qui a été développé en fait par les laboratoires RequaSud, et qui nous permet d'identifier les séries pédologiques présentes sur chaque parcelle d'étude. Et alors, à l'aide d'autres bases de données de caractérisation des sols wallons, on obtient les textures. À partir des séries pédologiques, on peut obtenir des données par rapport à la texture, à la densité et au carbone organique total de chaque parcelle. Et ensuite, grâce aux courbes de pédotransfert transfert de Vurecan, on a utilisé des fonctions qui avaient été adaptées pour la Belgique. On obtient les paramètres des modèles de Van Genuchten-Mualem pour l'estimation des courbes de teneur en eau et de conductivité de chaque parcelle. Donc voilà, par rapport à cette première récolte de données, on va essayer ensuite de recouper certaines de ces variables pour la création de nouvelles variables qui devraient être plus significatives dans nos objectifs de prédiction du profil de printemps. Donc tout d'abord, on peut retrouver dans la littérature, c'est pas nouveau, que le profil azoté à l'automne, donc avant cette période de lixivation, va influencer sur les pertes potentielles durant l'hiver. Et donc on a envisagé des variables pente de l'APL en fait. Donc vous pouvez voir sur le graphique de gauche ici, si jamais le stock d'azote minéral dans l'horizon superficiel est plus important que le stock d'azote minéral dans l'horizon inférieur, on va calculer une pente négative, alors et inversement une pente positive. Donc voilà, le risque de perte sera plus importante dans le cadre d'une pente positive que négative. Et donc on se retrouve avec trois nouvelles variables d'évaluation de la pente effective entre l'horizon de surface et intermédiaire, l'horizon intermédiaire et de profondeur, et alors l'horizon de surface et de profondeur qui correspond à la moyenne des deux premières variables. Et alors, on a aussi une série de variables qui sont continues, dont on a une valeur journalière entre l'évaluation de l'APL et du profil de printemps. Et alors, on va créer des variables nommées compteurs. Donc, par exemple, pour l'estimation du drainage hivernal, on a la variable du cumul des précipitations, cumul P, qui cumule de manière quotidienne les précipitations effectives, donc les précipitations moins l'évapotranspiration de référence, pour chaque jour entre l'évaluation de l'APL et du PAP, et on utilisera la variable cumulée le dernier jour. Pour l'estimation de l'activité bactérienne et de son influence sur la dynamique de l'azote, on envisage cette fonction de référence qui donne le taux de minéralisation pour une teneur en eau θ et une température T par multiplication d'une minéralisation dans des conditions optimales avec des fonctions de la teneur en eau et de la température. Donc de nouveau, on va utiliser des fonctions pour le compteur de la teneur en eau. On utilise deux fonctions différentes retrouvées dans la littérature que l'on évalue quotidiennement entre l'évaluation de l'APL et du PAP, et on prend le cumul de cette fonction. Vous allez voir graphiquement, ce sera peut-être un peu plus clair plus tard. Même chose pour le compteur de la température avec le cumul d'une fonction en Q10. Donc, Et ensuite, il s'agit, donc on a toute une série de variables explicatives potentielles, mais il s'agit de sélectionner lesquelles sont les meilleures pour nos objectifs de prédiction. Et on va utiliser une procédure stepwise. En fait, on va, à partir de l'ensemble des variables explicatives, on sélectionne la variable la plus significative à prédire le pape. Ensuite, l'ensemble des autres variables restantes sont évaluées. Et on sélectionne la deuxième plus significative à introduire le modèle, et ainsi de suite. Et alors, je n'avais pas précisé, mais donc l'environnement JUMP que nous avons utilisé pour cette procédure permet de régler les paramètres d'introduction des variables dans le modèle jusqu'à un optimal que l'on a réglé. Et en parallèle de ça, on a également réalisé des tests statistiques, des analyses en composantes principales, des tables de corrélation, des analyses de la variance afin de comprendre mieux notre jeu de données. Ensuite, pour les modélisations, on a envisagé les apports de transformations non linéaires de ces variables d'entrée pour la prédiction du pape, le croisement de certains facteurs, et alors également le potentiel d'une méthode d'intelligence artificielle. Donc nous avons envisagé des réseaux de neurones artificiels, donc sans rentrer dans les détails du mécanisme. Il faut savoir que c'est des modèles de calcul numérique, donc il n'y a aucune logique physique derrière les équations, mais en fait les équations du modèle vont s'ajuster en fonction de l'apport du jeu de données par minimisation, donc d'une fonction qui fait la différence entre les prédictions du profil azoté, donc du profil azoté observé, et des prédictions du modèle. Donc on minimise cette fonction et cela ajuste les équations de notre réseau qui constitue le modèle. Et enfin, on réalise une analyse de sensibilité par une procédure adaptée de Maurice. Donc c'est une procédure one step at a time. Donc on va en fait perturber un facteur d'entrée à la fois et on envisage les effets élémentaires que ces perturbations induisent sur la réponse pour voir quelles sont les variables qui ont le plus d'impact sur les prédictions. En parallèle de l'observation de profileurs de coupe, de nouveau issus de l'environnement JUMP, qui permettent une validation qualitative de la démarche, donc d'observer un peu la réponse de notre profil de printemps en fonction de chaque paramètre d'entrée, ce qui permet de voir si ça correspond à nos attentes, à la connaissance de la dynamique de l'azote. Donc nous allons survoler les résultats. Donc voilà, notre recherche de données a permis de rassembler 177 couples APL profil de printemps auxquels nous avons rattaché toutes les variables explicatives dont je vous présentais précédemment. Pour la forme de l'APL, j'ai repris ici les moyennes. Donc on a un APL de moyen de 56 kg d'azote par hectare et un profil de printemps légèrement plus faible. Et là, on peut voir que la pente de l'APL est légèrement négative. Donc l'APL de surface est en général plus important que l'APL de profondeur, tandis qu'au niveau du pape, c'est généralement plus rectiligne. Et alors, voilà un exemple de création de compteur de la température. Donc on a ici, sur le premier graphique, une fonction en Q10 qu'on évalue de manière quotidienne entre le jour d'évaluation de l'APL et du profil de printemps. Et alors, sur le troisième graphique, on voit le cumul de cette variable et on prendra la variable explicative, ici, le dernier jour. Donc, ce sera notre variable explicative du compteur de la température d'une des parcelles d'études. Ici, on peut observer les résultats d'une des nombreuses analyses stepwise que nous avons réalisées. Donc, celle-ci essaie de prédire le profil de printemps total, donc sans faire la distinction entre les horizons, à partir de toutes les variables sélectionnées ici dans la colonne grise, et pour les fertilisations des apports azotés totaux. Et alors on voit dans la deuxième colonne les variables qui ont été sélectionnées comme les plus significatives, c'est-à-dire, comme on peut s'y attendre, l'APL, la teneur en sable, alors les pentes de l'APL, et certaines classes d'apports azotés totaux, et certaines classes de cultures. Mais cependant, ces méthodes linéaires permettent de caractériser 30 à 40% de la variabilité du profil de printemps, ce qui est assez faible. On a observé des légères améliorations d'une transformation exponentielle de l'APL et de couplage entre l'APL total et la pente au niveau des horizons de profondeur, mais on restait à des capacités de prédiction assez faibles. Et du coup, mais par contre, les régressions linéaires nous ont permis de sélectionner les facteurs les plus significatifs. Et avec ces facteurs les plus significatifs, on a envisagé notre réseau de neurones qui, lui, permet d'évaluer 76% de la variabilité du profil azoté. Et donc, on voit ici le réseau obtenu à l'aide finalement donc de 8 variables d'entrée qu'on peut retrouver ici. Donc dans l'analyse de sensibilité, je les ai classées par ordre de sensibilité. Donc on voit que la teneur en sable est la plus sensible. Donc des légères variations de la teneur en sable du profil entraînent des profils de printemps beaucoup plus faibles. La PL de surface est également le plus sensible. Et c'est assez logique finalement que ce soit la PL de surface qu'on retrouve le plus dans le profil de printemps. Car en effet, les APL de profondeur vont être lessivés durant l'interculture et donc n'ont plus rien à voir avec la valeur du profil d'azote au printemps. Bon, l'importance des cumuls de précipitations est confirmée et on peut les quantifier ici. Le type de culture précédente et alors les apports azotés efficaces qui sont ici les moins sensibles dans le modèle. Ça peut être assez dû. Donc si on a des apports efficaces beaucoup plus importants, ça va entraîner que des profils de printemps légèrement plus élevés. C'est peut-être du fait que l'ensemble des parcelles ont été échantillonnées chez des agriculteurs qui étaient suivis pour leur gestion de l'azote. Et donc, il y avait déjà une gestion assez efficace. Et alors, la présence de cipans est significative à prendre en compte si on fait la différence entre les profils azotés par horizon. Donc, en effet, la présence d'une cipan va augmenter le profil de surface et diminuer le profil de profondeur. Donc si on fait le cumul sur tout l'horizon, on ne voit pas d'influence, vu que la surface a augmenté, la profondeur a diminué. Mais si on fait la distinction, on voit les cipans sont significatifs dans nos prédictions. Et alors, j'en viens aux conclusions. On a montré qu'il était possible de développer des modèles simples et faciles à mettre en place, qui ont un comportement cohérent par rapport aux modèles mécanistiques qui ont été mis en place dans les mêmes régions d'études que la nôtre et par rapport à nos connaissances de la dynamique de l'azote, avec des résultats de prédiction qui sont améliorés mais quand même prometteurs. Donc là maintenant l'objectif serait d'augmenter la base de données pour voir si on peut améliorer cette prédiction. Donc voilà, si on classe les profils azotés observés avec les profils azotés prédits, on a 76% d'explication de la variabilité. Et alors, on met en évidence la méthodologie de la base de données accolée à des modèles de sélection et de prédiction du profil azoté avec des méthodes de contrôle pour vérifier, surtout dans le cadre de réseaux de neurones artificiels, que ces équations correspondent, ont une certaine logique et ne n'over-paramétrisent pas nos données, notre jeu de données. Bon, il y a pas mal de limites aussi. En effet, on avait envisagé des compteurs d'humidité et de la température, mais le nombre d'hypothèses réalisées dans la procédure les rend beaucoup trop éloignés avec la réalité des parcelles et donc non significatifs dans les prédictions. Même chose pour la mesure du carbone organique du sol. Et donc on se dit que par exemple pour le carbone organique du sol, si on arrivait à mettre en place une méthode d'évaluation rapide au niveau de la parcelle et plus réelle de la matière organique du sol de la parcelle, ça pourrait aussi augmenter la précision des prédictions. Bon, l'analyse de l'incertitude n'a pas pu être réalisée et d'autres techniques de modélisation sont envisagées sur notre base de données. Mais donc il serait vraiment intéressant d'automatiser cette architecture pour pouvoir réaliser cette analyse de manière en continu avec l'enrichissement de la base de données d'année en année. Mais ça demanderait une systématisation de la récolte des données avec les partenaires comme Requacarto, PAMESET pour les données météorologiques et les bases de données de mesures APL et de profils de printemps. Et alors on pourrait étendre cette procédure à d'autres régions géographiques assez facilement pour finalement répondre aux enjeux présentés en introduction. Donc voilà, merci pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions.
Merci beaucoup. Les questions dans la salle ?
Christian Velter, au campus Ouest. Bon, c'est une méthode intéressante, mais on se demande si elle est vraiment plus simple qu'une approche avec un modèle mécaniste. Comment vous expliquez le fait que la teneur en sable soit le critère ou la variable la plus importante ? Est-ce que vous attendiez à ça ? Et est-ce que ça se répercute dans d'autres variables qui sont dépendantes de cette teneur, hein, des conductivités, des teneurs en eau? Voilà, commentez un peu, si vous voulez bien, cette variable majeure qui est la teneur en sable, dans quelle gamme on varie, etc.
Moi, ça me semble tout à fait plausible que la teneur en sable soit considérable dans les pertes d'azote durant l'interculture. Elle va influencer la porosité de notre profil, et donc elle est finalement reliée à la courbe de conductivité. Seulement, la courbe de conductivité inclut beaucoup d'autres paramètres d'hypothèses dans son évaluation, et donc est plus éloignée de la réalité de la parcelle. Donc c'est pourquoi, à mon avis, le sable est venu de manière prioritaire par rapport à l'évaluation d'un compteur plus complexe de la conductivité.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En haut, Philippe.
Dominique Harway, INRA. J'aurais voulu savoir pourquoi vous avez choisi un modèle de type réseau de neurones, qui est un petit peu une boîte noire. Pourquoi pas avoir pris d'autres techniques qui vous permettraient d'un peu mieux quantifier l'effet des variables d'entrée ? Je sais pas, des arbres de régression, cubistes ou des choses comme ça.
Différentes techniques ont été envisagées. Maintenant, les réseaux de neurones permettaient une approche complémentaire et assez différente justement des régressions qui avaient été testées et qui a montré son efficacité. Donc,
Okay.